Alors bonjour à tous, merci de prendre place. Alors à moins que vous soyez vraiment très endormis ce matin, c'est par là que ça se passe, voilà, vous reverrez tout ça tout à l'heure. À moins que vous soyez vraiment très endormis, vous n'avez pas pu rater ce tas de pierres qui se trouvait devant la porte ce matin, en arrivant. Hein, ou juste derrière, oui, enfin ça dépend comment on voit les choses, bien sûr. Une question de point de vue. Alors à votre avis, quel est le thème du jour? De quoi on va parler ce matin? Un tas de pierres devant la porte, à quoi ça vous fait penser? Alors attendez, il faut parler fort parce que j'ai beau être jeune. Les obstacles, ouais, pourquoi pas. Les pierres dans le jardin, ouais, pourquoi pas aussi, mais c'est pas tout à fait ça. Quoi d'autre? La grimpe, les rues de Genève, bon d'accord. On voit les citadins et puis ceux quoi, hein, qui ont leur petit jardin vert. Oui. La marche difficile, construire, pourquoi pas. Ok, c'est un petit peu de tout ça à vrai dire. Enfin, pas vraiment. Non, ce qu'on voudrait regarder avec vous aujourd'hui, c'est l'aspect communautaire de l'Église. Pour ce premier culte take-away, ou à emporter, à mâcher, à réfléchir dans la semaine. D'ailleurs, petite information, juste mon intervention pour ma formation personnelle va être filmée, mais ce ne sera pas du tout diffusé, on va décortiquer ça avec Henri ensuite. Donc voilà, donc vous inquiétez pas de ça, vous ne vous retrouverez pas sur YouTube. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, ça va être de travailler sur cette, réfléchir ensemble sur cette notion de l'aspect communautaire de l'Église. Oui, parce que l'Église, on peut comparer ça un petit peu à une promenade sur un sentier de montagne, quand le sentier est bien balisé, tout va bien, on a ses chaussures, son équipement, on se pose pas de questions. Et puis, certains, parfois, se mettent à exprimer dans l'Église une nouvelle façon d'exprimer leur foi, ou quelque chose qui ne nous avait pas forcément choqué ou frappé jusqu'à maintenant. Et puis, on peut se sentir comme sur un pierrier. Tout d'un coup, on ne sait plus comment marcher. Et alors, c'est un petit peu à ça qu'on voudrait s'attarder ce matin, pour analyser un petit peu comment chacun fonctionne dans cette situation, dans une situation où les habitudes sont chamboulées. On vous propose de réfléchir en groupe à trois questions. Alors, je vais vous les distribuer, et puis vous allez pouvoir vous organiser pour réfléchir à ces questions pendant 10-15 minutes. Voilà, oh là. Alors, pardon, pas voulu. Alors, vous avez fait un peu le tour de ces questions, plus ou moins, ça vous a dérangé, ça vous a plu, ça vous a stimulé. C'est un petit peu l'objectif de se découvrir dans ces cultes. Alors, on va pas faire de mise en commun, il n'y aura pas de responsable de groupe qui va se lever et puis prendre la parole devant tout le monde. Je vais juste essayer de vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à ce thème.
Juste pendant que Thomas continue, on va débarrasser les tables, si vous voulez bien tout mettre en bout de table. Merci.
D'accord. Donc on fait multitask là. Alors, bon, dans l'Église, on partage de l'infiniment intime. On fait l'effort de mettre en forme sa foi et puis de l'exprimer avec d'autres. Donc on a ce besoin d'être traité avec grand soin. On a besoin que les autres prennent des pincettes avec nous. Et tout ça, pas avec du respect ou de la tolérance, mais avec l'amour du Christ. Alors, pour comprendre cette relation d'amour dans l'Église, on peut comparer ou analyser une relation dans un couple. Alors, je vais regarder le mien, c'est encore ce qui m'est le plus facile, et puis je vais essayer de me demander comment je fais, quoi. Alors, avec Véro, avec ma femme, ce qui nous prend le plus de temps, puisqu'il est le plus nécessaire pour nous, c'est de discuter, d'échanger. Puis quand on a bien discuté, qu'on s'est bien pris la tête, que je pense que c'est fini, eh ben on remet ça, on continue, on reparle encore. Et puis l'idée, c'est de... Et je crois qu'il n'y a pas de plus grande sagesse dans le couple, en tout cas, dans l'amour, me semble-t-il, que de sans cesse se dire l'un à l'autre ce qu'on ressent, pour arriver à une décision quant à quoi faire de ces émotions ensemble. À partir de là, bien sûr, tout le défi, c'est d'arriver à construire une entité qui ne soit pas ma personnalité, ni celle de Véro, qui vivrait comme ça côte à côte, mais quelque chose de commun, une sorte de somme de nous deux. En fait, on vit une sorte de mort et puis de renaissance pour quelque chose de nouveau. On change. Et on devient une sorte de... une personnalité unique qui n'est ni totalement la mienne, ni totalement la sienne, mais la nôtre. Alors ça nécessite qu'on cultive nos différences. Parce que si on ne le fait pas, si l'un ou l'autre arrête de rester lui-même, ce nouvel équilibre qu'on a formé ensemble, il s'effrite pour basculer plus d'un côté que de l'autre. Alors dans l'Église, toute proportion gardée, c'est un petit peu la même chose. Il y a encore une... Merci. Quand tout va bien, c'est sûr, c'est plus facile, on a ses habitudes, sa routine, on ne se pose pas de questions et on avance. Mais quand viennent les remises en question, de nouvelles façons d'exprimer la foi qui émergent, sont mises au défi nos capacités à vivre avec la différence, avec l'autre. Et on peut ressentir par rapport à tout ça de la peur face au changement, face à la perte de repères. Un peu comme sur un pierrier en montagne. On n'arrive plus à avancer, les façons élémentaires de marcher ne fonctionnent plus, il faut trouver de nouvelles solutions. Et puis on peut ressentir de la lassitude aussi, surtout si c'est le 15e pierrier qu'on passe, on en a un petit peu marre, on se dit bon, est-ce que vraiment je vais faire un effort? Mais il y en a toujours dans un groupe qui vont ressentir de l'envie face au défi. Ça va un petit peu les exciter, les stimuler, ils vont se dire, ah tiens, on va pouvoir trouver des solutions, qu'est-ce qu'on va faire? Alors en fait, il me semble que le secret c'est que peu importe ce qu'on ressent. Non, parce qu'on ne choisit pas les émotions qui nous percutent, qui viennent en nous. Par contre, ce qu'on choisit, c'est les actions qu'on va entreprendre par rapport à ces émotions. Et là, effectivement, on peut décider de les laisser vivre, ces émotions, ou bien de les remettre en question pour mieux rebondir. Personnellement, quand je me trouve face à un défi, un challenge, une difficulté, j'ai plutôt tendance à avoir peur, à perdre un peu courage, à bafouiller, à plus trop savoir quoi faire, et à me dire, bon, j'y arriverai pas, à quoi bon, tout ça. Et puis je me pose un petit peu, je réfléchis, et puis je regarde à Dieu, quand même, ça m'arrive de temps en temps, et puis à ce qu'il m'a enseigné. Et puis je me souviens qu'il ne faut pas que j'ai peur de le voir surgir, comme ça un petit peu à l'improviste, au coin de la route, et à me rendre compte plus tard qu'effectivement toute chose concourait à mon bien. Et puis je finis par me mettre en route malgré tout. Alors pas toujours, parfois je rebrousse chemin quand même, mais pas pour bien longtemps. Alors certains, effectivement, vont retourner sur leurs pas. Ils sont conscients de leurs limites, et parfois on n'a pas envie d'être un poids pour les autres. D'autres vont chercher des solutions alternatives, il y avait une autre porte par exemple, ou bien si on fait un pas sur le côté, on peut plus ou moins éviter le tas de pierres. Bon. Et puis il y a les montagnards aguerris, les inévitables casse-cou, qui vont avoir envie de foncer, d'aller de l'avant. Alors ils auront plus ou moins tout prévu, dans le meilleur des cas ils auront la corde pour s'encorder et pour passer avec un peu moins de difficulté. Et puis, s'ils sont un peu tête en l'air, ils auront juste quelques bonnes blagues pour faire passer le mauvais moment. Voilà, faudra faire avec. On ne choisit pas toujours ses leaders, ma foi. Alors, aucune de ces actions n'est mauvaise en soi. Non. Pourquoi? Mais parce qu'elles émanent toutes de notre parcours individuel, de notre relation avec Dieu, de ce qu'on a découvert de lui. Pour certains, ce sera un Dieu sage et lucide, qui te dit, voilà, reconnais où sont tes limites. Pour d'autres, ce sera un Dieu fort et téméraire, qui dit, vas-y, va de l'avant, je suis avec toi. Et toutes ces facettes de la personnalité de Dieu ne sont que des pièces d'un puzzle qui nous dépasse, qu'on ne voit pas encore. La personnalité de Dieu révélée dans sa totalité. Alors, vouloir rendre un culte ensemble à Dieu, c'est inévitablement se confronter à la différence, à l'autre. Et c'est accepter de sortir de sa zone de confort pour aller à la rencontre de l'autre, et pour devenir, un petit peu comme dans le couple tout à l'heure, autre chose, avec et vers Dieu. Alors quel projet, vous allez me dire? On est sûr d'une chose, c'est que c'est impossible pour nous, c'est impossible sans Dieu. Mais qu'est-ce qui reste au fond? Quel est le plus petit dénominateur commun entre nous, sinon l'amour de Dieu par Jésus, renouvelé sans cesse par la présence du Saint-Esprit en nous? Alors, à Mérin, on a cette chance d'avoir une grande variété d'expressions de la foi, des gens qui s'expriment de manière très différente.
Alors profitons-en pour travailler justement ensemble notre capacité à accepter la différence, à accepter l'autre et à remettre en question notre façon de vivre le culte, à faire de la place à de nouveaux modes d'expression.
Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. C'était dans 1 Jean au chapitre 4. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur est proche.
Seigneur, c'est toi qui as ouvert le chemin. C'est toi qui nous accordes maintenant, aujourd'hui, un libre accès. Et c'est grâce à ton corps qui a été brisé. Ta vie donnée pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous venons, nous répondons à ton appel, nous croyons de ce que tu t'es donné pour chacun de nous afin que nous puissions faire cette traversée et entrer librement en ta présence. Te bénissons pour ton accueil, ce que tu nous reçois, l'autre côté, les bras ouverts, au nom de Jésus. Amen.
Qu'on puisse prendre un petit moment de chant, de louange. On va commencer par pas celui-là. On va juste intervertir avec le jeune Zévieux. On peut se réjouir ensemble ce matin. Le dernier chant, merci ma que reconnaissant. Que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche.
retrouver devant une situation imprévue, pierrier ou autre, comment réagir? Déjà, si ça a été tendu autour du petit déjeuner avant de venir. Qu'est-ce que « aimez-vous les uns les autres » veut dire devant une telle situation? Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. C'était l'exhortation que Véronique nous a lue dans Hébreux 10, 24. Et l'enchaînement, n'abandonnant pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres. Prenons soin les uns des autres ou veillons les uns sur les autres. Prenons soin les uns des autres. Et quand les sentiments nous disent tout le contraire, tout sauf aimer, aider, accepter différentes manières de faire, d'être, on n'a pas forcément envie d'encourager. Les voyageurs à qui cette lettre était adressée, ces Hébreux, eux, ils étaient en danger de faire fausse route, même d'abandonner. Début de la deuxième chapitre, tout début, nous lisons dans le courrier, le message qui leur était adressé, attention aux paroles que nous avons entendues, sinon nous allons nous tromper de chemin. Et à la fin du chapitre où on se trouve, chapitre 10, nous ne sommes pas de ceux qui se retournent en arrière pour aller se perdre. Glissement de terrain, glissements de toutes sortes autour de nous. Comment maintenir le cap? Certains se sentiront tout simplement être abandonnés, laissés en arrière, laissés sans secours. J'ai plus le courage, je ne suis plus, je n'arriverai pas jusqu'à l'autre côté. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire devant de tels sentiments, dans une telle situation? Et est-ce que l'Église peut être d'un secours quelconque? Qu'est-ce que Dieu nous dit? La conclusion du message à ces voyageurs, je ne vous abandonnerai jamais. Depuis toujours, Dieu s'est proposé de s'attacher à la même cordée que nous. Je vous ai aimé d'un amour éternel. On a vu Joseph ces derniers temps. Peut-être qu'il était abandonné de ses frères, de Dieu, jamais. Et cette même lettre nous encourage à garder premièrement notre regard fixé toujours sur Jésus. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Regardez à lui pour recevoir le courage. Nous abandonner, mais c'est le mercenaire qui abandonne ses brebis. Et si nous nous sentons abandonnés, et alors il nous comprend, parce que ses disciples qu'il avait choisis pour les avoir auprès de lui, au moment crucial, quand c'est saisi de lui, tous l'ont abandonné, ils ont pris la fuite. Aimer à ce moment-là, je ne pense pas que c'était un sentiment dans le cœur de Jésus, mais un engagement ferme envers nous, envers l'humanité. Parce que, juste avant nos deux versets, c'est dit, oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Il ne nous lâche jamais. Il n'a pas cessé de nous aimer. Il nous a pris par la main et il continue de nous tenir. Non, je ne vous abandonnerai jamais. Et l'Église alors, c'est-à-dire nous, eh bien, nous sommes appelés à agir de la même manière que notre guide, celui qui est passé devant. Tout comme Dieu prend soin de nous, nous sommes appelés à aimer en acte nos frères et sœurs. Devant le pierrier, c'est plus facile devant le café et les croissants. Mais en tout temps, comme lui s'est engagé envers nous, nous nous engageons d'aimer les gens différents que nous-mêmes. C'est la marque de l'Église de s'aimer les uns les autres. Et ce n'est pas toujours un sentiment. C'est un choix d'encourager nos frères et sœurs, tout comme le Saint-Esprit nous encourage. Nous le savons, on n'a besoin de rien faire pour être découragé. Le découragement vient tout seul. Mais l'encouragement, au contraire, on a besoin de se lever, de vouloir. J'avais la jambe cassée dans un match de foot en trois endroits. Je l'ai vu plier quand, après un tacle. Donc, on m'a pris à l'hôpital et là, on m'a plâtré jusqu'en haut de la jambe. Et puis, quelques jours après, le physio arrive et dit, mais maintenant, c'est le moment de se mettre debout. Alors, à l'époque, on ne mettait pas les trucs, les vis, c'était juste plâtré, je l'avais vu plier, j'étais convaincu que je ne pourrais pas me mettre à nouveau debout après 2-3 jours. Impossible. Alors il dit, donc j'étais là, essayé de me lever, mais je savais que je ne pouvais pas. Donc, je vous laisse, je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Les trois autres dans la même chambre qui était passée par là, il a dit, mais tu peux le faire. Nous aussi, on était dans la même situation. L'un a eu un terrible accident de voiture, ça faisait des mois qu'il était là. Un vrai voyou, en fait, je crois que c'était dans une chasse, course avec la police, mais il a choisi de m'encourager, il dit, mais tu peux le faire. Et je les ai cru, et quand le physio est revenu, je me suis levé. L'encouragement de nos frères et sœurs. Un petit mot d'un jeune, après le culte, quel encouragement. Quand j'ai entendu de nos aînés, mais moi j'ai fait la garderie parce que ça me permet de faire connaissance avec les jeunes familles. Mais combien c'est l'amour en action? L'encouragement. Et ça fait un bien fou. Ce qu'on ne pense pas pouvoir faire, encourager, aimer, on arrive à le faire. On nous a tous encouragés à commencer à marcher un jour, heureusement. Mais pourquoi tout d'un coup on s'arrête à s'encourager par la suite sur le chemin? Parce que nous sommes tous en chemin. On fait tous partie de la même cordée. Et notre objectif à nous tous, c'est d'arriver ensemble jusqu'à l'autre côté. À veiller que nos co-voyageurs arrivent à bon port. Les moyens à notre disposition pour conclure, mais c'est en tout premier lieu l'encouragement du guide. Son amour constant, sa main qui ne nous lâche jamais. Celui qui a dit « je vous abandonnerai jamais » et qui n'a jamais abandonné non plus sa décision, son alliance d'être auprès de nous. Est-ce que ça veut dire alors qu'on essaye de tolérer, selon les mots de Thomas, on fait semblant de respecter malgré les différences? Non, c'est très actif. C'est veiller que nul ne glisse dans la traversée vers le découragement. C'est prendre soin malgré les différences. C'est ne pas penser à notre traversée premièrement, mais aussi à celle des autres. Presque aimer comme nous sommes aimés. Et ainsi, nous arriverons au bon port, où nous serions accueillis les bras ouverts par celui qui nous aime tant. Mais je crois, Xavier, tu as quelques conseils pratiques à nous apporter.
La pratique. On a une théorie, une exhortation le dimanche matin au culte. Qu'est-ce qu'on en fait après? Avec quoi est-ce qu'on part? N'est-ce pas, Thomas? J'ai à cœur vraiment qu'on puisse pas seulement écouter des belles paroles, puisse gargariser des versets bibliques, mais qu'on puisse vraiment se les approprier et puis vraiment les vivre. Pas juste les savoir par cœur pour les réciter, pour faire bien. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose que Seigneur Jésus nous demande de vivre aujourd'hui. Vous croyez ça? Ouais. Moi, je le crois de tout mon cœur. Seigneur Jésus nous a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls, qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus nous a donné des frères, des sœurs, une église. On est là pour se soutenir les uns les autres, pour s'encourager, comme disait Roger. J'aimerais bien qu'on prenne deux petites minutes pour réfléchir chacun, chacune, à ce qu'on a vraiment à cœur. À ce qu'on a vraiment à cœur qui peut nous peser, ou ce qu'on a vraiment à cœur comme projet, comme souhait. Par exemple, je pense que si ma femme, Prisca, devait écrire quelque chose, si elle devait formuler un souhait, son poids actuellement, c'est de trouver une nouvelle monitrice pour en remplacer une qui a fait des longues années au sein du groupe des moniteurs de l'école du dimanche. Et puis c'est quelque chose qui l'apaise parce qu'elle a un cœur pour le service du Seigneur auprès des enfants. Je suis persuadé que Nicolas qui est en bas pour le 1000e dimanche en bas, peut-être 2000e, il a le même fardeau. On a tous des fardeaux différents, on a tous des souhaits différents, on a tous des choses qui nous pèsent aussi qui sont différentes. Je voulais évoquer ce matin, je me disais, tiens, si maman devait expliquer quelque chose, elle expliquerait quelque chose qui l'apaise, parce que ça fait une année que papa nous a quittés. Et puis elle expliquerait aussi qu'elle a un fardeau pour les orphelins de Cotonou, qu'elle soutient, qu'il soutenait avec papa depuis des années. Tout ça, c'est des choses qu'on a tous dans les tripes, c'est des choses qui nous tiennent vraiment super à cœur. On sait tous ce que Fanny ou Katie formulerait comme poids, aussi comme fardeau qu'elle a. J'aimerais qu'on puisse prendre 2 minutes et puis que chacun vous puissiez réfléchir à ce qui vous importe le plus, à la chose qui, soit qui vous motive le plus, soit dont vous avez le plus envie, soit qui vous pèse le plus. J'aimerais prier avec vous avant ce temps de réflexion. Seigneur Jésus, tu es Dieu d'amour, tu es merveilleux, tu es avec nous tous les jours comme tu l'as promis. Seigneur Jésus, tu nous connais chacun par notre nom. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous aimes, c'est toi le bon berger qui vient nous chercher quand on s'égare dans la montagne. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as pas laissés seuls, merci parce que tu nous as donné de cheminer avec toi en Église. Merci parce que quand nous traversons le pierrier, quand nous sommes dans les difficultés, eh bien, tu nous donnes de marcher dans la même cordée, de cheminer vers toi. Et celui qui est plus fort relève le plus faible, et quelques mètres plus loin, c'est le contraire. Seigneur Jésus, je te demande de pouvoir nous questionner avec perspicacité sur ce qui nous tient vraiment à cœur, sur ce que nous aimerions vraiment partager avec nos voisins, avec nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te demande ton esprit, je te demande ton inspiration, je te demande ton amour pour chacun de nous. Amen.
Donc c'était ici, je comprends, le but de ces petits papiers avec ficelle.
Certes.
Oui. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire avec?
Alors, ce que je vous propose de faire, je propose à M. Diebold de bien vouloir tirer. Ça, c'est une vraie corde de varap. Je vous laisse deviner de qui elle vient, notre corde de varap. Ça commence par D ou par B. Merci beaucoup. On va laisser cette corde pendre. Et à la sortie du culte, j'aimerais bien que vous preniez, soit maintenant, soit à la sortie du culte, un temps pour écrire ce que vous avez vraiment sur le cœur, sur ces étiquettes que Dominique a préparées, que vous trouvez sur les tables. Ce qu'on aimerait vivre avec vous, c'est un temps de partage. On n'aimerait pas juste dire « Alléluia, on est une belle église, le Seigneur nous aime, rentrez tous à la maison maintenant. » Et va te faire ton surgelé au micro-ondes et à dimanche prochain. C'est pas ça une église. Une église, c'est un endroit où on peut partager. On n'est pas là ensemble par hasard. On est là ensemble parce que Dieu l'a voulu. Et je crois qu'on a le devoir, Dieu nous exhorte, Jésus nous exhorte, la Bible nous exhorte à se soutenir les uns les autres. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Je vais le relire une deuxième fois. Écoutez bien. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Je vais vous le relire une troisième fois. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Et c'est ce que nous aimerions faire avec vous. Donc tout à l'heure, quand on va sortir, s'il vous plaît, passez d'abord devant, crochez votre petit mot, puis ensuite vous sortirez par là, sans renverser les thermos, et puis on vous attendra avec un petit souvenir du culte à la sortie.
Et puis, donc ce n'est pas le coup de pouce qui existe toujours, mais c'est plutôt des besoins qu'on n'aimerait pas que les gens partent avec, mais que ce soit ici attaché. Et puis, par la suite, on peut voir si peut-être on est soi-même la réponse à ces besoins, mais ça va rester un moment. Vous pouvez mettre votre nom, mais c'est pas une obligation, hein, c'est ça.
Simplement, si le but c'est de s'entraider, c'est vrai que c'est peut-être mieux de mettre votre petit nom à côté. On n'aimerait pas non plus l'équipe qui a préparé le culte, on n'aimerait pas non plus vous laisser accrocher votre billet et puis rentrer à la maison. Nous, on sera ici devant et puis on aimerait, pour ceux qui le désirent, ceux qui ont quelque chose à cœur d'important, on aimerait prolonger avec un temps de partage ici. Donc, Roger et toute l'équipe, on sera ici pour vous rencontrer.
Priez avec vous si vous le souhaitez.
Alors, on va prendre... On va prendre 3 minutes, tranquillement. Dans 3 minutes, on va entonner un chant pour l'offrande. Mais on se prend d'abord un temps pour réfléchir et puis pour écrire chacun son petit mot.
On a fait peut-être pas mal de nouveaux chants peut-être aujourd'hui. Vous avez peut-être pu voir, je pense. Mais moi, j'aime les nouveaux chants. J'aime bien en apprendre de nouveaux. Et pour le dernier chant qu'on va prendre pour ce culte, c'est encore un nouveau. Mais que j'aime beaucoup, et que ça puisse se trouver ça un encouragement peut-être pour la suite, en sachant qu'on sait qu'il m'a secouru, et qu'on a envie de le proclamer qu'il est roi, que c'est notre rédempteur. ça peut être aussi la suite de notre semaine aussi, qu'on puisse être nous donner de notre tête. Alors il est simple. On va le reprendre plusieurs fois pour que vous puissiez aussi le chanter. Je vous invite à vous lever quand même.
Secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois.
Je sais qu'il m'a secouru.
Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois, il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit,
mon Rédempteur. Je sais qu'il m'a secouru.
Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois.
Je veux proclamer.
Je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets. Je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur.
Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Que Dieu notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Seigneur, nous invoquons ta bénédiction sur nous-mêmes, nos familles, afin que nous puissions rayonner ton amour autour de nous à la gloire de ton nom. Amen. Attachez vos billets, prenez vos versets. Bon dimanche.